Bienvenue pour cette troisième séance de cours sur le modèle de Hubbard. Et aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Je voudrais finalement motiver ce modèle à partir de matériaux. La dernière fois, on a vu les motivations dans le domaine des atomes froids dans les réseaux optiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de matériaux. Ça va nous occuper une vingtaine de minutes, je pense. Et puis ensuite, je voudrais vous parler de théorie de champs moyens, en essayant de vous donner une vision peut-être un peu originale sur la théorie de champs moyens à la Hartree-Fock. Hein, je ne parle pas de champs moyens dynamiques aujourd'hui. Voilà. Donc, avant toute chose, je voudrais mentionner que le séminaire d'aujourd'hui est donné par Fedor Simkovitch. Fedor est postdoc dans notre équipe au Collège de France et au Centre de physique théorique de l'École polytechnique. Et Fedor, c'est quelqu'un qui a développé beaucoup les méthodes de Monte-Carlo diagrammatique. Et aujourd'hui, il va nous donner une espèce de vue générale, d'une part de ces méthodes, et d'autre part, des applications au modèle de Hubbard. Et vous allez voir que ces méthodes ont permis des avancées. Ont permis des avancées tout à fait remarquables sur la compréhension. Du modèle de Hubbard, au moins dans des régimes d'interaction pas trop grands. Bien, alors, voilà donc notre modèle familier, le modèle de Hubbard. Et comme je l'ai souvent dit, c'est un modèle très simplifié. Donc je voudrais vous dire un petit peu dans quel contexte on peut considérer que ce modèle est une bonne approximation pour décrire des vrais matériaux. Alors, comme je l'ai expliqué au premier cours, pour un très grand nombre de matériaux fortement corrélés, en fait, il faut retenir plus de détails de la structure chimique du matériau, et en particulier, un point très important, c'est plus de degrés de liberté par site. On a en général plusieurs orbitales par site qui sont pertinentes pour la physique. Mais on verra que dans certains cas, on peut se contenter d'un modèle à une bande, dans certains cas extrêmes. Alors, d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine, quelles sont les classes de matériaux dans lesquelles on rencontre des phénomènes de forte corrélation électronique? Alors, en fait, ce sont des matériaux dans lesquels les électrons sont relativement localisés autour de leurs atomes. Si on a des électrons qui sont dans des orbitales très étendues, d'un atome, d'un site atomique à l'autre, il va y avoir un très grand recouvrement de ces orbitales, donc l'intégrale de transfert T va en général être très grande, et l'élément de matrice de l'interaction de Coulomb-écran T sera souvent dans ce cas, plus petite que l'intégrale de transfert. Donc on sera dans des régimes d'électrons faiblement corrélés qui peuvent être bien décrits par des approximations d'électrons indépendants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que La fonction d'onde du système n'est pas qualitativement au moins mal décrite par un état produit, disons un déterminant de Slater. En revanche, dans des systèmes où on a des orbitales beaucoup plus localisées, eh bien, ça ne sera plus le cas. L'élément de matrice de l'amplitude tunnel T va être relativement petite et comparable à U, et c'est là où on va avoir des phénomènes de forte corrélation. Alors, en pratique, où est-ce qu'on rencontre ça? Alors, pour des raisons de physique atomique assez simples, vous pouvez regarder les cours des années précédentes où j'explique ça un peu plus en détail. C'est le cas en particulier pour les métaux de transition. Alors ici, pour ceux qui aiment la classification périodique, on commence à remplir la couche 3D, hein, quand on va du scandium au zinc. Et vous voyez qu'ici, effectivement, ce sont les premiers. Si vous regardez même les éléments purs, ce sont les premiers éléments purs à l'état solide qui ont une physique qui évoque immédiatement celle des interactions entre électrons, puisque vous avez ici des matériaux magnétiques. Le fer, le nickel, etc., sont des matériaux magnétiques. Et ça vous signale immédiatement qu'effectivement, il y a des effets d'interaction et de corrélation qui sont importants dans ces matériaux. Et ça correspond à la physique des électrons dans ces couches 3D partiellement remplies. Alors la même chose est vraie pour les autres métaux de transition ici. Ces métaux de transition correspondent au remplissage progressif de la couche 4D Alors, parce que les orbitales, la partie radiale des orbitales 4D est un peu plus étendue que celle des orbitales 3D, puisqu'il faut qu'elles soient orthogonales spatialement, ça veut dire que l'intégrale de transfert pour ces métaux de transition 4D va typiquement être un peu plus grande que pour les 3D. Donc on s'attend à des effets de corrélation, au moins du point de vue de l'interaction de Coulomb écranté, relativement plus faibles pour les métaux de transition 4D et leurs composés. Effectivement, alors que beaucoup d'oxydes de ces métaux 3D sont des isolants de Mott, il y a en fait peu d'oxydes des métaux 4D qui sont des isolants de Mott. Ceci étant dit, les corrélations électroniques pour les métaux 4D, une fois chassés par la porte du point de vue de la physique de Hubbard, rentrent par la fenêtre du point de vue d'autres physiques. Et en fait, le couplage de Hund joue un rôle très important dans les oxydes de métaux de transition des couplages 4, des métaux 4D. Donc il y a quand même des effets de corrélation très fortes, mais plutôt dus au couplage de Hund. C'est le cas en particulier de composés du ruthénium. Par exemple, le fameux supraconducteur strontium de ruthénium O4 est un métal fortement corrélé en raison du couplage de Hund. Voilà, donc il y a également les composés des oxydes de métaux de transition, des composés des métaux de transition de la couche 5D qui ont été assez populaires dans ces dernières années parce qu'il y a des effets intéressants de coopération ou de compétition entre les corrélations électroniques et le couplage spin-orbit, en particulier les composés à l'iridium, dont je vais brièvement, que je mentionnerai brièvement dans une autre slide plus loin. Et puis, il y a évidemment des atomes qui ont des électrons encore plus localisés que les métaux de transition. Et c'est le cas des terres rares, donc qui correspond ici au remplissage graduel de la couche 4F, commençant ici par le cérium, ou des actinides, en commençant ici par le thorium, qui correspond au remplissage progressif de la couche 5F. Alors, par exemple, les métaux 4F, à l'état pur, hein, je ne parle même pas de leurs composés, ces métaux-là, c'est des métaux tout à fait inhabituels, hein, dans la mesure où ils ont une conduction métallique, mais si je regarde leur susceptibilité magnétique, au lieu d'être une susceptibilité de type poly, c'est-à-dire indépendant de la température, c'est une susceptibilité de type Curie, c'est-à-dire qui signale la présence de moments locaux avec une dépendance en 1 sur T ou Curie-Weiss. Donc ça, ça vous dit tout de suite que les électrons qui sont dans les couches 4F, ils sont carrément, essentiellement, localisés sur leurs atomes, hein, et donc il y a vraiment une sorte de dichotomie dans ces systèmes entre le comportement itinérant qui sont les électrons dans les autres bandes et puis les électrons 4F qui restent localisés sur les atomes. Donc c'est vraiment des prototypes de matériaux à électrons fortement corrélés, et les composés de ces terres rares ou de ces actinides sont les fameux, si maintenant je fais des alliages avec d'autres éléments, sont les fameux composés à fermions lourds qui donnent des liquides de Fermi avec des masses effectives considérables. Voilà, donc ça c'est un petit peu, très rapidement, une sorte de panorama de où dans la classification périodique on trouve des phénomènes de forte corrélation électronique et un petit peu pourquoi, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder plusieurs de mes séries de cours des années précédentes où on va beaucoup plus dans les détails de ça. Alors, il ne faudrait pas s'imaginer que les métaux de transition ou les terres rares et leurs composés sont les seuls matériaux qui ont des effets de forte corrélation électronique. Il y a également d'autres matériaux dont certains sont d'un grand intérêt actuel. Alors, par exemple, il y a des composés organiques. Alors, les composés organiques, c'est-à-dire des cristaux moléculaires. On prend des molécules qui peuvent être plus ou moins grosses et on fabriqués avec un arrangement périodique de molécules, donc c'est des cristaux moléculaires. Et parce que ces molécules sont relativement éloignées les unes des autres dans le réseau cristallin, elles peuvent même être séparées par des contre-ions entre ces molécules, qui peuvent d'ailleurs servir de sites de dopage, par exemple, eh bien, les amplitudes de saut, de nouveau, vont être relativement faibles et on retrouve des phénomènes de forte corrélation électronique. Alors, c'est le cas, par exemple, des fameux cristaux moléculaires de molécules de C60, hein, les fulrènes, nommés d'après Buckminster Fuller, l'architecte qui fabriquait des belles structures de ce type. Et ces matériaux ont clairement, comme par exemple K3C60 ou bien un autre alcalin C60 sous forme cristalline. Ce sont des matériaux qui ont des phases très intéressantes et en particulier des phases supraconductrices, mais également des phases isolantes de Mott qu'on peut contrôler par substitution sur ce site ou surtout par pression. Souvent, dans le domaine des matériaux organiques, la pression est une variable expérimentale très intéressante, parce que ce sont des matériaux très susceptibles à la pression, très compressibles, et donc on peut balayer le diagramme de phase, très souvent, sur un seul matériau en variant la pression. Alors à gauche, ici, c'est l'exemple des fulrènes, mais à droite, ici, vous avez... alors ça, ce sont des matériaux tridimensionnels, hein, comme vous voyez l'arrangement ici, très simple, mais vous avez d'autres matériaux organiques. Alors vous avez les matériaux organiques quasi unidimensionnels, dont a parlé Thierry Giammarchi la dernière fois, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais vous avez également une classe de matériaux très intéressants qui sont des matériaux organiques bidimensionnels. Je vais y revenir dans un transparent ultérieur. Donc ce sont des matériaux qui sont des sortes de piles d'assiettes, chacune des assiettes étant une molécule de ce type, je ne vais pas me risquer à prononcer son nom, ou une paire de molécules. Ces assiettes forment des plans bidimensionnels qui sont bien isolés les uns des autres. Et donc, on a une conduction très bidimensionnelle dans ces systèmes. Et de manière très intéressante, ces matériaux organiques bidimensionnels sont des supraconducteurs. Vous voyez ici le diagramme des phases en fonction de la température et de la pression, dont j'ai dit que c'était un paramètre très intéressant expérimentalement. Et vous voyez un superbe diagramme de phase de ces matériaux Kappa-ET2 qui comporte plusieurs phases à basse pression. Donc, quand les molécules sont relativement loin les uns des autres, on est dans le régime où l'amplitude de saut est la plus faible. Donc, on va avoir les régimes de corrélation forte les plus importantes. On a un isolant antiferromagnétique, tout à fait du type de ceux qu'on observerait dans d'autres matériaux inorganiques comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, un isolant de Mott antiferromagnétique, on en verra la physique en champ moyen plus tard aujourd'hui, qui est séparé d'une phase à plus haute température où on a des comportements Curie-Weiss de la susceptibilité mais pas d'ordre magnétique. Et puis, quand j'applique la pression, cet isolant paramagnétique ici devient un métal à travers une transition qui est ici signalée en bleu, qui est une transition du premier ordre, une sorte de transition liquide-gaz, si vous voulez, en tout cas dans la même classe d'universalité, où on passe d'électrons localisés dans la phase paramagnétique isolante à des électrons mobiles dans la phase paramagnétique métallique, mobiles mais avec des forts effets d'interaction. Et puis quand on refroidit ce métal, ici, ce système devient un supraconducteur dont la symétrie du paramètre d'ordre n'est toujours pas l'objet d'un consensus clair. Et vous voyez que ce supraconducteur, il a un TC max qui est de l'ordre de 14 Kelvin. Alors 14 Kelvin, c'est vraiment élevé, surtout si on le rapporte à la largeur de bande de ces systèmes. En fait, le rapport TC sur largeur de bande est comparable à celui des cuprates. Donc, parce que la largeur de bande dans les cuprates est beaucoup plus large. Donc, en fait, ces matériaux, malgré leur TC de 14 Kelvin, qui est déjà pas si mal en valeur absolue, méritent tout à fait le nom de supraconducteurs à haute température critique, en valeur relative. Et puis, il y a une phase intermédiaire où il semblerait que la supraconductivité et l'antiferromagnétisme coexistent. Donc, voilà cette classe de matériaux triangulaires organiques. Ils sont étudiés dans peu de laboratoires actuellement, beaucoup au Japon, mais quelques-uns en Europe et aux États-Unis. Et ils ont toutes sortes d'effets très intéressants. Une de leurs particularités, je vais y revenir dans la suite, c'est que d'une part, ils sont le réseau sous-jacent dans les plans est triangulaire, donc c'est un réseau avec de la frustration. Il y a donc des compétitions intéressantes entre effets d'interaction et effets de frustration. Et d'autre part, ils sont, eux, bien décrits par un modèle de Hubbard à une bande. Les bandes sont suffisamment séparées pour que ce soit le cas. Je vais vous le montrer dans la suite. Bon, et puis évidemment, cette liste, c'est très incomplète, sans parler des nouveaux matériaux qui sont très étudiés actuellement. qui sont les systèmes de bicouches de graphène twistées, ou comme on dit, on donne un angle de rotation par rapport d'une couche par rapport à l'autre, et on fabrique comme ça toute une classe de nouveaux matériaux ayant des propriétés intéressantes. Alors ce sujet a connu une explosion à partir de 2018, quand, donc vous voyez, c'est tout récent, quand Pablo Jarillo Herrero au MIT a découvert la supraconductivité dans ses bicouches de graphène twistées. Mais il y a également, pas seulement le graphène, qu'on peut faire tourner comme ça, mais toute la classe des 10 chalcogénures de métaux de transition, donc un métaux de transition et deux atomes, par exemple, de soufre ou de sélénium, pour lesquels on peut également faire de l'ingénierie de structure de bande, si vous voulez, en faisant tourner les deux couches l'une par rapport à l'autre. Vous voyez ici, sous le fond d'écran de ce transparent, c'est le motif de moiré qu'on observe quand on fait tourner ces deux couches l'une par rapport à l'autre. Et je vais vous montrer un petit peu plus tard un transparent dans lequel on voit la structure de bande d'un de ces composés de 10 chalcogénures de métaux de transition, qui réalisent eux aussi, pour certains, une assez bonne approximation, enfin qui sont décrits par des modèles de Hubbard à peu de bandes, voire à une seule bande. Donc c'est tous ces systèmes twistés, que ce soit le graphène ou que ce soit les 10 chalcogénures de métaux de transition, constituent des plateformes extrêmement intéressantes, d'une part pour des effets physiques intéressants, d'autre part pour la description théorique et des questions de physique fondamentale. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je ne vais pas y revenir là-dessus, en général, et en particulier pour les oxydes de métaux de transition, il faut introduire plus de degrés de liberté par site. Par exemple, dans, l'oxyde de vanadium, vous allez avoir besoin de prendre en compte plus qu'une seule orbitale D par site du vanadium. Et donc, on va avoir au mieux, des sortes de modèles généralisés, dans lesquels on aura non seulement l'interaction de Hubbard, mais également d'autres interactions. Ce n'est pas l'objet du cours de cette année, mais je veux que vous ayez quand même clairement ça en tête. Il va donc falloir considérer des extensions du modèle de Hubbard à plus d'orbitales, avec des interactions à plus longue portée, etc., etc. Un tenseur complet d'interaction, on avait vu ça brièvement au courant. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais le point remarquable, c'est qu'il y a certains matériaux pour lesquels, alors ils sont en nombre relativement faible par rapport à l'ensemble des matériaux disponibles dans la nature, même parmi les matériaux électrofortement corrélés, pour lesquels le modèle de Hubbard à une bande est au moins un bon point de départ, voire même une description assez réaliste. Alors j'ai essayé d'en faire une liste ici. Honnêtement, je crois qu'elle est à peu près exhaustive, même si elle pourra s'enrichir dans l'avenir. Alors, d'une part, il y a les fameux oxydes de cuivre supraconducteurs à haute température critique, qui maintenant ont presque une trentaine d'années. Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi ces matériaux sont relativement bien décrits par un modèle de Hubbard. Alors, il reste des débats pour savoir si c'est vraiment un modèle de Hubbard à une bande ou s'il faut aussi introduire les orbitales d'oxygène et étendre un petit peu ce modèle. Mon opinion personnelle sur ce sujet, c'est que avec 25 ans de recul sur la physique du modèle de Hubbard à une bande, on peut quand même affirmer que beaucoup de la phénoménologie des cuprates supraconducteurs est bien décrite par, au moins pour une bonne part des phénomènes, par le modèle de Hubbard à une bande. Mais il reste quand même certaines questions ouvertes, la moindre étant de savoir si le modèle de Hubbard à une bande est vraiment un supraconducteur ou pas. Et j'en parlerai un petit peu vers la fin de ce cycle de cours. Bon, évidemment, cette question est importante dans ce contexte. Donc, il y a cette classe de matériaux qui sont, je voudrais quand même le signaler, parmi les oxydes de métaux de transition, une très rare exception comme étant bien décrite par un modèle de Hubbard, relativement bien décrite par un modèle de Hubbard à une bande. La plupart des oxydes de métaux de transition nécessitent plus de degrés de liberté par site. Alors, toujours parmi les oxydes de métaux de transition, il y a aussi une autre exception remarquable, qui sont les iridates, donc ces oxydes d'iridium, qui est un élément de la couche 5D, donc un métal de transition où les effets de couplage spin-orbite sont très importants. Et justement, à cause des effets de ce couplage spin-orbite, il y a en fait une levée de dégénérescence supplémentaire entre bandes qui fait que on est assez bien décrit, enfin tout au moins certaines théories décrivent bien ces iridates comme un modèle de Hubbard à une bande, même si cette question là aussi est aussi discutée et l'effet des autres bandes est une question qui est encore assez ouverte. Voilà, et puis il y a ces composés organiques bidimensionnels, certains systèmes twistés comme les dicalcogénures de métaux de transition. Ça, je crois que ça fait un petit peu la liste des matériaux qui sont raisonnablement décrits, au moins qualitativement, par un modèle de Hubbard à une bande. Il y a aussi une classe de matériaux dont je ne vais pas du tout parler, mais qui est intéressante, je peux vous donner des références, qui sont des atomes adsorbés sur une surface de semi-conducteur. Par exemple, on prend surface de silicium 1-1, et puis on vient déposer des atomes qui sont éloignés les uns des autres. Hein. C'est toujours cette notion de faible intégrale de transfert qui fait de séparation des bandes entre elles, qui fait qu'une description par un modèle de Hubbard à une bande peut être réaliste. Et ces atomes adsorbés ont tendance à former là aussi des réseaux triangulaires et ont été une plateforme intéressante pour étudier, pour réaliser un tel modèle. Voilà. Alors, par ailleurs, ça c'est l'aspect réaliste, si vous voulez, mais comme je l'ai souvent dit dans ce cours, le modèle de Hubbard à une bande est aussi un modèle jouet pour le théoricien, un peu comme le modèle d'Ising pour les transitions de phase, qui sans être forcément réaliste, est important comme plateforme de développement de méthodes et aussi pour garder l'essence d'un nombre limité de phénomènes. Alors je voudrais revenir sur certains de ces exemples un tout petit peu plus en détail pour vous faire au moins sentir un peu comment ça marche, sans que ce cours s'attarde trop sur les aspects de structure électronique, parce que j'ai fait ça dans des cours précédents, je le referai certainement dans l'avenir, mais juste pour vous donner un petit peu une idée. Alors ça, c'est un transparent sur ces composés organiques bidimensionnels triangulaires de la famille des kappa-ET, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors ici, vous avez une vue du cristal, où l'axe B, donc l'axe vertical, est l'axe le moins conducteur. Hein. Donc vous voyez ici ces empilements d'assiettes, hein, qui sont ces molécules, ici. Et puis, entre ces empilements d'assiettes, vous avez ces couches de contre-ions qui réalisent la neutralité électrique de l'ensemble du système. Et vous voyez que, pour un électron, on voit tout de suite ici, on peut tout de suite imaginer que pour un électron, ça va être difficile de transiter selon l'axe B, parce qu'il faut qu'il saute de cette pile d'assiettes à cette autre-là, relativement bien séparées les unes des autres spatialement, et puis aussi à travers cette couche de contre-ions. Alors, il y a toute une physique, une physico-chimie, où on peut contrôler les propriétés de ce matériau, non seulement avec la pression, mais aussi en faisant des substitutions moléculaires sur ces contre-ions qui nous permettent de se promener également dans le diagramme des phases. Alors maintenant, si je regarde, non plus dans cette géométrie, mais par le côté, cette pile d'assiettes, elle se présente de la manière suivante. Et vous voyez que les molécules sont organisées en dimères, donc vous voyez ici, c'est-à-dire en paires de molécules. Vous voyez ici une paire de molécules orientées comme ça, et puis son voisin qui est une paire de molécules orientées comme ceci. Et ce pattern se répète à travers ce réseau. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'on commence à former un réseau triangulaire de paires de molécules, un réseau triangulaire de dimères. Donc, vous voyez ici le réseau triangulaire sous-jacent. Donc, j'abstrais la description du système comme ceci étant un de mes sites du réseau, j'ai un réseau triangulaire de ce type. Et quand on regarde les intégrales de saut, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux intégrales de saut ici qui sont égales, mais il y a une intégrale de saut ici, T' qui est différente. Donc, vous pouvez aussi penser à ce réseau comme un réseau carré, si vous voulez, mais dans lesquels on a mis une intégrale de saut T sur les liens verticaux et horizontaux, et puis une intégrale de saut T', mais seulement sur une des diagonales. Donc c'est un réseau triangulaire anisotrope. Quand on fait un calcul complet de structure de bande de ce système, on trouve cette structure de bande-là. Donc ça, disons, ce sont des méthodes qui sont l'état de l'art dans les calculs de structure de bande. C'est des systèmes qui ont des grosses cellules unitaires. Il y a beaucoup d'atomes par cellule unité. Mais c'est des choses qu'on peut faire sans problème aujourd'hui. Et alors, vous voyez que ce qui est remarquable, c'est qu'il y a toute une quantité de bandes enchevêtrées ici à énergie négative. Zéro, c'est le niveau de Fermi. Et puis, toute une quantité de bandes de spaghettis enchevêtrées ici. Mais vous voyez qu'il y a, entre ces deux paquets de bandes, il y a des bandes bien isolées. Et en particulier, au niveau de Fermi qui est ici, vous voyez qu'il y a un groupe de deux bandes. Alors, pourquoi deux bandes? Parce qu'il y a en fait deux sites par cellule unité dans ce matériau, qui sont bien isolés. Et si on fait une description de basse énergie, en termes d'un Hamiltonien effectif de basse énergie de la physique de système, en retenant les états qui sont les états importants pour la physique au niveau de Fermi, eh bien, on trouve une description de modèle de Hubbard à une bande sur un réseau triangulaire avec cette anisotropie TT'. Donc voilà un petit peu très rapidement esquissé, disons, la structure électronique de ces matériaux organiques triangulaires, bidimensionnels. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder ces deux articles ici. Et il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Je crois que j'ai cité... Non, je n'ai pas cité ici un article de revue de Ross McKenzie qui est aussi très bien sur ce sujet. Alors, je voulais aussi vous donner un petit peu une idée de pourquoi la structure électronique de ces matériaux, de ces 10 chalcogénures de métaux de transition twistés a quelque chose à voir avec le modèle de Hubbard. Alors, ça, c'est un exemple ici qui est tungstène diselénure, donc WSE2, qui est représenté ici de manière un peu imagée, de la manière suivante. Donc on a une bicouche de tungstène SE2, donc ce sont ces cristaux moléculaires bidimensionnels où qui forment des plans 2D liés entre eux par une interaction très faible de Van der Waals, donc c'est pour ça qu'on peut les tourner facilement. Et puis on fait tourner l'un par l'autre avec un petit angle, une couche par rapport à l'autre. Et voilà le calcul de structure de bande. Et vous voyez qu'ici, on a en gros la bande de valence et la bande de conduction. Et on a une reconstruction de la structure de bande quand on fait tourner une couche par rapport à l'autre qui nous donne deux bandes bien isolées au niveau de Fermi. Ces matériaux ont des propriétés physiques remarquables. Ça, c'est un peu le diagramme de phase qui a été établi dans ce groupe à Columbia. En fonction de la densité de porteur dans les plans, alors ce sont des systèmes qu'on peut vraiment intégrer à des devices, à des dispositifs, et régler la densité de porteur par une grille, une back gate, par exemple, qui permet de régler la densité de porteur, qui permet également, avec d'autres tensions appliquées, de régler la distance entre les deux bandes. Donc on peut vraiment commencer à faire de l'ingénierie de structure électronique, si vous voulez. En changeant l'angle de twist, on peut modifier la physique du système. En changeant les tensions de grille, on peut régler la densité de porteur, mais on peut aussi régler l'écart entre les deux bandes. Donc ça devient des systèmes où on peut vraiment faire de l'electronic structure design, si vous voulez. Et voilà le diagramme de phase en fonction de la température et de la densité de porteur. Alors vous voyez qu'il y a une phase ici isolante, qui est un isolant de type MOT. Et puis il y a des états métalliques intéressants. Alors ça c'est une représentation en couleur de la résistivité, hein. Utilise la résistivité pour le code de couleur. Donc la résistivité diminue quand on va à basse température. Et ici, dans les phases bleues, elle tombe à zéro. Donc on a des phases supraconductrices de part et d'autre d'un isolant de MOT, qui fait beaucoup penser un peu qualitativement à la physique des cuprates ou aussi à la physique de ces supraconducteurs organiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux bandes isolées comme ça? Là, on peut le comprendre un petit peu qualitativement de la manière suivante. En fait, quand on twist, quand on introduit un angle, vous voyez ce motif de moiré ici, quand on introduit un angle, vous pouvez penser à ça comme la rotation d'une des zones de Brillouin par rapport à l'autre. Et dans cette ce que fait cette rotation, c'est qu'elle décale la bande de conduction de la couche du haut et de la couche du bas par une petite quantité, comme ça. La même chose pour la bande de valence. Et puis, il y a une reconstruction de ces deux bandes qui maintenant se croisent. Et c'est cette reconstruction ici que vous voyez dans le calcul. Ah. Que se passe-t-il ? Intéressant. Voilà, que vous voyez ici dans le calcul de structure de bande. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Encore une fois, la structure électronique de ces matériaux twistés, ça serait l'objet de tout un cours. Ça viendra peut-être dans les années qui viennent. Mais c'est juste un petit peu pour vous donner un parfum de comment ça marche et de pourquoi ces plateformes, pourquoi ces matériaux sont des plateformes intéressantes actuellement. Je vais juste finir cette présentation des matériaux par... en revenant au bon vieux Cuprate et en vous donnant un petit peu aussi une intuition de pourquoi ces systèmes sont bien décrits, peuvent être en première approximation bien décrits par un modèle de Hubbard à une bande. Donc la structure cristalline des cuprates supraconducteurs, je suppose que vous l'avez probablement tous et toutes vu au moins une fois dans votre vie, c'est typique des oxydes de métaux de transition avec la structure perovskite. Peut-être une des meilleures représentations pour le physicien, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la structure classique de Na2CuO4. C'est très simple, en fait, quand on est un petit peu familiarisé avec les oxydes. Vous avez ici ces octaèdres en jaune. Chacun des sommets des octaèdres est occupé par un oxygène. Donc là, on n'a pas représenté les atomes explicitement non plus à l'intérieur de la cage. Mais à l'intérieur de cette cage d'oxygène, il y a un cuivre. Donc voilà une représentation ici, hein, où vous voyez ces atomes de cuivre qui occupent les nœuds de ce réseau cristallin très simple. Et puis, autour de chacun de ces cuivres, il y a quatre oxygènes dans les plans. Et puis, il y a deux oxygènes liés à picot, qui sont celui-ci et celui-là. D'accord ? Voilà, et puis, entre ces plans, donc ces octaèdres se touchent par les sommets, ils forment des plans bidimensionnels, ici. Et puis entre ces plans, il y a un troisième élément, qui est en l'occurrence est une terre rare, le lanthane, qui est représenté par les atomes bleus. Donc vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on a des matériaux quasi 2D, hein, puisqu'il y a ces plans de cuivre-oxygène dans lesquels toute la conduction va se faire. De nouveau, on est dans un système où la conduction, selon C ici, est difficile, la résistivité est plusieurs ordres de grandeur plus grande. Et quand vous regardez... quand vous regardez ces plans de cuivre-oxygène ici, où l'action se passe, si vous voulez, bah, comme beaucoup d'entre vous le savent, je pense, ces plans ont une structure cristalline extrêmement simple. On a un cuivre sur chacun des sites d'un réseau carré. Et puis on a les oxygènes qui sont entre les sites. Donc dans les plans, on a une formule chimique qui est cuivre O2, hein, puisque... c'est ça la cellule unité, hein. Chaque cuivre a deux oxygènes, vous translatez ce motif par les translations du réseau carré et vous reconstituez votre plan de cuivre-oxygène. Voilà. Alors, si je fais un comptage de la valence du système dans l'état lanthane 2, cuivre, oxygène 4, qu'est-ce que je trouve ? L'oxygène, c'est quelque chose qui aime toujours attraper deux électrons, donc il va avoir... Il va être 2 moins, et j'en ai 4. Et le lanthane, c'est une terre rare qui donne très facilement 3 électrons. Donc la valence du lanthane, c'est 3+. Et j'en ai 2. Donc ici, vous voyez, j'ai une charge 6+. Et ici, j'ai une charge 8-. Donc ça veut dire que le cuivre, ici, dans l'état... isolant, c'est-à-dire quand je prends ce matériau, je ne fais rien d'autre que ça, le cuivre est dans l'état 2+. Alors, le cuivre dans l'état 2+, ça veut dire qu'il est dans l'état D9. Si vous regardez la structure électronique du cuivre et que vous lui enlevez 2 électrons, vous voyez que ça veut dire que on est dans l'état 3D9. 3, c'est pour la couche 3D. Donc, il y a 9 électrons dans la couche D. Alors, 9 électrons dans la couche D, dans un système dans lequel les octaèdres qui sont là sont en fait très allongés. Donc, ce n'est pas un système qui a une symétrie cubique. Si j'avais une symétrie cubique, donc si je prends... Alors ça, je vous renvoie à des cours que j'ai faits dans les années précédentes sur la structure électronique des oxydes, mais je vous le fais très rapidement au tableau pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Si vous avez un cuivre entouré, je vais essayer de faire un dessin magnifique à trois dimensions, donc entouré par ces quatre oxygènes dans les plans, c'est un peu comme ça, et puis de mes deux oxygènes apicaux, si j'avais une symétrie octaédrale parfaite dans un cristal cubique, par exemple pour les perovskites 1, 1, 3, qui n'ont pas cette anisotropie bidimensionnelle, eh bien, mes orbitales D, qui sont au nombre de 5, hein, il y a 5 orbitales, se décomposent en 3 orbitales qui forment un triplet T2G et 2 orbitales qui forment un doublet EG. Alors, maintenant, je dois placer là-dedans 9 électrons dans l'état isolant. Donc, vous voyez que pour placer 9 électrons là-dedans, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais complètement remplir cette couche T2G par 6 électrons. Et puis ici, je vais placer 3 électrons dans ce doublet. Alors, si c'est tout ce qui se passait, clairement, quand je vais commencer à doper le système, donc je vais placer le niveau de Fermi quelque part là, puisqu'ici, comme j'ai que 3 électrons dans un doublet qui peut en accueillir 4, c'est là que l'action va se passer. Eh bien, donc vous voyez qu'ici, j'aurais un système qui serait décrit par un système, au minimum, un système à 2 orbitales, et non pas à une seule orbitale. Donc ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans les nickelates qui ont un seul électron dans les EG, parce qu'ils sont D7, mais il faut retenir les 2 orbitales, donc on a, si vous voulez, une sorte de modèle de Hubbard généralisé à 2 bandes au minimum. Mais dans les cuprates, ce n'est pas ça qui se passe. Dans les cuprates, il faut tenir compte de deux choses dont je n'ai pas parlé ici, qui sont d'une part la forte covalence entre le cuivre et l'oxygène. Donc il faut penser en fait à hybrider ces états avec les orbitales d'oxygène, les orbitales dans les plans, c'est-à-dire les orbitales px et py. Donc ça, c'est une première chose très importante. Et d'autre part, il faut penser qu'on n'a pas une symétrie octaédrale et cubique au voisinage de mon cuivre, mais on a des octaèdres très allongés. Et donc ça introduit un splitting, comment on dit, ça écarte les deux niveaux. D'accord, et donc au final, ce qu'on trouve, c'est qu'on a une orbitale antiliante de cette orbitale x2 moins y2 g ici, qui est très haute en énergie, hein, c'est la plus haute en énergie, et c'est elle qui va être occupée. Donc ici, je vais avoir une orbitale x2 moins y2 qui s'hybride avec les oxygènes px, py, qui va me donner un niveau dans lequel se trouve mon électron unique. Et puis ici, j'ai un autre niveau qui va prendre mes deux électrons. Donc on va avoir 8 niveaux complètement pleins et puis une orbitale antiliante ici qui va contenir un électron. Et donc, en gros, je vous l'ai fait très vite avec les mains, c'est pour ça qu'il y a une seule bande active au niveau de Fermi dans les cuprates supraconducteurs. Alors, pour vous le décrire un petit peu plus précisément, voilà, si vous voulez, le dessin un peu mieux. Donc là, je pars du cuivre dans un environnement cubique, disons, où j'aurai T2G avec 6 électrons et EG avec 3 électrons. La distorsion des octaèdres induit une levée de dégénérescence supplémentaire de ces orbitales T2G, donc ici entre XY et XY et YZ, et puis ici entre X2 moins Y2 et 3Z2 moins R2. Alors, pourquoi est-ce que le fait de tirer sur les octaèdres selon l'axe C, ça stabilise les orbitales Z2? Ben, pour des raisons bien évidentes, hein. C'est simplement la répulsion de Coulomb qui devient moins grande avec les oxygènes en direction C, donc ça stabilise les orbitales qui pointent dans la direction C, c'est-à-dire les orbitales Z2. C'est pour ça que cette orbitale diminue en énergie, et celle-là qui est l'orbitale planaire est comparativement déstabilisée. Voilà, donc vous voyez tout de suite que si je place maintenant mes 9 électrons D9, eh bien j'obtiens toutes ces orbitales pleines, et puis une orbitale demi-remplie ici, toute seule, qui contient cet électron. Alors en réalité, il faut tenir compte de l'hybridation avec les oxygènes, et quand je considère maintenant l'hybridation de ces orbitales avec les orbitales px et py des oxygènes dans les plans. Je fabrique une bande liante et une bande antiliante, et c'est cette bande antiliante ici qui dérive de l'hybridation de x2 moins y2 du cuivre avec px et py dans les plans, cette bande unique qui est la bande de mon modèle de Hubbard à une bande. Voilà. Donc si vous voulez le comprendre en termes de liaison chimique, vous pouvez représenter cette bande antiliante entre les x2 moins y2 des cuivres et puis les px, py des oxygènes comme quelque chose comme ça. La bande liante, elle est très basse en énergie ici, et c'est celle où les signes des orbitales se voient comme ça, alors qu'ici, quand elles se voient comme ça, on a une orbitale stabilisée. Voilà, alors ça, c'est un vrai calcul de structure électronique. Vous pouvez regarder ça comme un ensemble de bandes auxquelles vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous pouvez aussi, quand vous commencez à regarder la composition de ces différents états de blocs en termes d'orbitales atomiques, comprendre vraiment comment ça marche. Et en fait, on comprend en regardant ce groupe de bandes ici, donc, vous voyez, qui couvre quand même une gamme d'énergie importante, hein, entre, disons, 2 électronvolts et moins 7, donc c'est presque 10 électronvolts que représentent toutes ces bandes. Et bien, en fait, ici, vous voyez que vous pouvez comprendre que toutes ces bandes qui sont ici correspondent à des états hybridés de ces états T2G et de la dernière orbitale EGZ2 hybridé avec les oxygènes, qui donne tout ce groupe de bandes ici. Et puis la bande la plus basse en énergie, c'est la combinaison liante entre X2 moins Y2 et les oxygènes. Et la bande la plus haute en énergie de ce paquet ici, c'est la combinaison antiliante entre le cuivre et les oxygènes. Et le niveau de Fermi est ici parce qu'on a 9 électrons. Donc vous voyez qu'on a vraiment le niveau de Fermi qui croise une seule bande active. Et donc, si vous pensez un petit peu dans une image, si vous voulez, de groupe d'anormalisation, on va essayer de construire un Hamiltonien effectif de basse énergie en intégrant progressivement les degrés de liberté de haute énergie. Ce n'est pas qu'on sache le faire vraiment en pratique, malheureusement, mais si vous y pensez comme ça, eh bien, vous allez finir par arriver sur une description effective de basse énergie qui va se concentrer sur ces états-là, donc avoir essentiellement un système à une bande. Alors c'est sûr qu'il y a une description effective en termes d'un système à une bande. Ce qui est moins sûr, c'est qu'au cours de ce processus de renormalisation, on ne génère pas des interactions, qui soient aussi des interactions à longue portée, évidemment aussi des intégrales de saut à plus longue portée, voire retardées. Et donc c'est un peu ça la question. Est-ce que vraiment le modèle Hubbard est une bonne caricature de ceci? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter ce processus un petit peu avant, de manière à aussi intégrer... décrire les orbitales d'oxygène, avoir un modèle effectif qui permette de contenir cette bande et aussi la bande liante. Bon. Mais voilà, je vais m'arrêter là sur la discussion autour de ça, mais j'espère, en ayant fait ça, vous avoir donné un petit peu une idée de pourquoi les cuprates supraconducteurs peuvent avoir quelque chose à voir avec un modèle de Hubbard à une bande, malgré le fait qu'on a du cuivre avec, a priori, 5 orbitales D, des orbitales d'oxygène dont il faut tenir compte et 9 électrons à placer. C'est un petit peu ça la logique générale. Voilà, alors pour terminer un petit peu, maintenant je voudrais vous donner la première partie du cours d'aujourd'hui, je voudrais vous donner un petit peu une idée des questions qu'on voudrait poser au modèle de Hubbard à la lumière de la physique de ces différents matériaux. Donc maintenant qu'on a une idée de quel système ce modèle de Hubbard peut décrire, on peut regarder les résultats expérimentaux et interroger ce modèle de Hubbard pour savoir si il va contenir un petit peu cette physique. Alors, je vais le faire sur la base du diagramme des phases des cuprates supraconducteurs. Donc, on va admettre que ces cuprates supraconducteurs ont probablement quelque chose à voir avec le modèle de Hubbard bidimensionnel. Et puis, on va regarder le diagramme des phases expérimentales. Alors, je suppose que vous l'avez tous un petit peu déjà vu. Donc ça, c'est une sorte de dessin d'artiste, disons, du diagramme de phase expérimental qui met ensemble plusieurs classes de matériaux, ceux dopés en électrons, ceux dopés en trous. Alors le dopage se fait, par exemple, par substitution ici sur le site du lanthane. Je peux substituer du lanthane pour du strontium. Et ça change la valence des plans. Et ça introduit, si je substitue du lanthane par du strontium, ça introduit des trous dans les plans. Donc c'est du dopage en trou, c'est cette direction-là. Il y a une autre classe de matériaux, pas ceux-là, mais d'autres oxydes de cuivre supraconducteurs, qu'on peut doper en électrons. Ils ont une structure électronique un tout petit peu différente, donc il n'y a pas d'oxygène à picot en particulier, donc c'est peut-être un petit peu, trompeur de les mettre sur le même diagramme de phase, mais enfin on le fait souvent. Et donc là, on a réuni un petit peu, si vous voulez, la phénoménologie expérimentale des cuprates supraconducteurs sur un seul diagramme de phase. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Donc pour le composé non dopé, donc par exemple celui-ci, on a un isolant de Mott. Et cet isolant de Mott est un isolant antiferromagnétique qui a une température donnée, elle, très élevée, qui peut être des centaines de Kelvin, 400, 500 Kelvin. Donc on a une phase isolante de Mott antiferromagnétique très robuste. Et puis quand on dope ce système en trou, qui est le côté le plus, peut-être le plus mystérieux de ces matériaux, le côté dopé en trou, très rapidement, cette phase antiferromagnétique se casse la figure. Ici, il y a tout un zoo de phases intéressantes. Par exemple, dans l'antal cuivre-oxygène dopé en strontium, on a ici une physique d'un isolant avec des moments locaux qui ressemblent à un verre de spin. Il y a probablement du désordre dans ces matériaux qui font que ces moments locaux forment une sorte de verre. À un moment donné, quand on dope suffisamment à basse température, on entre dans une phase supraconductrice qui a fait la popularité de ces matériaux, avec le fameux dôme supraconducteur, hein, où la température critique commence par monter quand on dope, et puis après, quand on dope plus, elle redescend, il y a un dopage optimal où TC est maximum. Alors maintenant, si je regarde l'état non supraconducteur, donc au-dessus du dôme, ici, il y a toute une phénoménologie très intéressante. On peut commencer par la décrire en venant des hautes températures, c'est une chose que j'aime bien faire. Si on commence par regarder à haute température, on a ici un régime qu'on appelle souvent le métal étrange, dans lequel, en particulier près du dopage optimal, la résistivité du système est parfaitement linéaire en température. Alors ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, parce que dans un liquide de Fermi, j'en parlerai un petit peu la prochaine fois, on s'attend à trouver une résistivité en T carré, quand elle est dominée par les constantes plus T carré, pour tenir compte du désordre. Quand elle est dominée par les interactions électrons-électrons, les métaux ont une résistivité en T carré. Sur certains matériaux à électrons fortement corrélés, on voit ça très bien. Par exemple, dans strontium-2-ruthénium-O4, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure, on voit une très belle résistivité en T carré. Ici, pas du tout, on voit une résistivité linéaire en température, parfaitement linéaire, dans une certaine gamme de dopage. Donc ça, c'est ce que les gens appellent le métal étrange. Étrange voulant essentiellement dire que c'est l'objet d'études pour le comprendre. Et puis, quand on baisse la température à partir de ce régime de résistivité linéaire, les sources changent et on observe un phénomène qui s'appelle le pseudogap. Alors, je pense que vous en avez déjà un peu entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le pseudogap ? Alors, en fait, c'est le fait que différentes sondes expérimentales permettent d'affirmer qu'il y a un déficit d'état excité dans ce système, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bonnes quasi-particules, hein, qui sont les états excités d'un système d'électrons, il y a des régions de la surface de Fermi dans lesquelles on n'arrive pas à former des quasi-particules cohérentes, alors qu'il y a d'autres régions de la surface de Fermi où on y arrive. Je vais vous montrer une mesure de spectroscopie de photoémission qui permet de sonder la présence de quasi-particules ou pas. Cette mesure, vous pouvez, très 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 naïvement y penser comme la fonction spectrale du système résolue en moment et en énergie, en impulsion et en énergie. Et ça, c'est la zone de Brillouin, c'est le quart de la zone de Brillouin de ces plans bidimensionnels, donc Kx, Ky entre 0 pi sur A, 0 pi sur A. Hein. Donc là, on vit dans cette description bidimensionnelle. On a une zone de Brillouin qui est celle du réseau carré à deux dimensions. On a une seule bande, on a une surface de Fermi avec un seul feuillet. Ça, c'est effectivement une réalité expérimentale. Donc on voit bien qu'il y a une surface de Fermi avec un seul feuillet dans les plans, au moins dans ce cas-là. Et voilà cette surface de Fermi. Et quand on regarde le spectre de photoémission en différents points proches de cette surface de Fermi, Ce qu'on voit, c'est que si on est dans la direction diagonale de la zone de Brillouin, donc ce qu'on appelle en général la direction nodale, pourquoi nodale? Parce qu'en fait, c'est là où le gap supraconducteur a un nœud, s'annule, parce qu'il a une symétrie x2 moins y2, donc il s'annule sur la diagonale. Eh bien, quand on regarde la direction nodale dans l'état normal, on a un beau pic de quasi-particules que vous voyez en bleu ici. Donc, il y a une bonne quasi-particule ici. Alors, on peut négocier pour savoir si vraiment sa largeur est en T2 ou bien si ce n'est pas exactement un liquide de Fermi, mais en tout cas, il y a une quasi-particule. En revanche, quand on regarde ici, près des antinœuds, donc de π0 et 0π, ce qu'on voit, c'est un spectre qui est beaucoup, beaucoup plus mou, d'une part, et puis d'autre part, si vous regardez attentivement, 0 étant la position des excitations d'énergie nulle, ici, vous voyez qu'il y a un décalage, il y a un recul si je regarde le point d'inflexion du spectre ici, il est en recul par rapport à 0. Et donc il y a une sorte de gap qui s'est ouvert, qu'on peut prendre comme la distance entre 0 et ce point d'inflexion du spectre, ou qu'on peut prendre comme le maximum ici, qui correspond, si vous voulez, à une perte d'état excité quand on se rapproche du niveau de Fermi. Donc c'est ça qu'on appelle le pseudo-gap. Ce n'est pas comme ça qu'il a été découvert, ça c'est sa manifestation en photoémission, qui nous permet de savoir de quelle région de l'espace K provient ce phénomène du pseudo-gap. Donc le déficit d'état excité, il est associé aux régions antinodales, dans le cas des cuprates dopés en trous. Ce n'est pas comme ça que le pseudo-gap a été découvert. Alors vous voyez que c'est assez intriguant, ça veut dire que quand on dope cet isolant de Mott, maintenant si vous pensez à la naissance du métal, donc là, je repars d'ici. Comment ce métal va naître quand je lui introduis des porteurs de charge? La description la plus naïve, ça serait de dire on part d'un isolant de Mott, et puis quand on dope ce système en porteur de charge, on va fabriquer un métal avec des bonnes quasi-particules sur toute la surface de Fermi. Et effectivement, ça, c'est ce qui se passe dans un certain nombre d'oxydes de métaux tridimensionnels. C'est des choses qui sont bien compris sur le plan théorique, bien décrite par exemple par la théorie du champ moyen dynamique, voire mon cours d'il y a 2 ans. Mais ici, ces matériaux, ils ont un comportement différent. Quand on les dope, ils ont une sorte de comportement dichotomique. Les régions nodales ont des bonnes quasi-particules qui se développent, mais les régions antinodales refusent de former des quasi-particules. C'est ça la physique du pseudo-gap. Donc, ils ont un comportement un peu schizophrène entre nœuds et antinœuds. Ils ne savent pas très bien s'ils veulent devenir métalliques ou faire quelque chose d'autre dans la région des antinodales. Donc voilà une des manifestations du phénomène du pseudo-gap. Alors ce n'est pas comme ça que le pseudo-gap a été découvert historiquement, et c'est quand même important de mentionner la découverte historique. La découverte historique du pseudo-gap, c'est des mesures magnétiques, en particulier des mesures de résonance magnétique nucléaire, dans lesquels on regardait, en particulier le groupe d'Henri Alloul à Orsay, qui a été un des pionniers du sujet, regardait le night shift, vous pouvez penser ça essentiellement à la susceptibilité uniforme, en fonction de la température, en fonction du dopage, et vous voyez que dans le régime pseudo-gap, ce qui se passe, c'est qu'on a un night shift qui est plus ou moins constant à haute température, et puis quand on baisse la température, il se met à s'écrouler. Fonction de la température à décroître. Donc il y a un déficit d'excitation aussi dans le spectre magnétique, alors que dans un métal, je rappelle que la susceptibilité magnétique est censée être constante en fonction de la température, c'est la loi de Pauli. Ici, au contraire, quand on va à basse température, la susceptibilité magnétique se met à décroître. D'accord ? Donc on perd des excitations. Alors les expériences de photoémission sont rapidement venues confirmer, enfin pas confirmer, mais préciser, que ce déficit d'excitation était lié aux régions antinodales dans l'espace des impulsions. Donc, une des questions qu'on veut pouvoir poser au modèle de Hubbard, c'est est-ce que le modèle de Hubbard a un pseudo-gap? Et si oui, quelle en est son origine? Puisque c'est quand même un des phénomènes les plus frappants, disons, de ce diagramme de phase dans le régime de bas dopage. Et dans le séminaire d'aujourd'hui, vous allez déjà entendre un petit peu parler d'études théoriques sur le pseudo-gap. Et dans le cours de la prochaine fois, je vais consacrer mon cours à expliquer la physique du pseudo-gap dans le modèle de Hubbard bidimensionnel, dans le régime de couplage faible, qui n'est pas nécessairement le régime pertinent pour les cuprates supraconducteurs, mais qui est au moins un régime dans lequel on comprend complètement, à la fois numériquement et analytiquement, le lien qui existe entre pseudo-gap en régime de couplage faible et fluctuation magnétique, antiferromagnétique. Voilà, donc je pense que le séminaire d'aujourd'hui et le cours de la prochaine fois vont bien se compléter en ce sens, et à la fin du cours de la prochaine fois, vous aurez devant vos yeux une théorie du pseudo-gap en couplage faible, qui est quelque chose qui est compris depuis déjà assez longtemps, et des gens comme André-Marie Tremblay et Wilk, dans les années 90, également André Tchoubukov et d'autres, ont clarifié cette physique du pseudo-gap en régime de couplage faible. Et puis dans la dernière séance de cours de ce cycle de cours, j'essaierai de vous parler du pseudo-gap en régime de couplage fort, qui est plus pertinent pour les cuprates supraconducteurs, également moins bien compris, bien que les méthodes numériques permettent quand même d'affirmer qu'il y a un régime de pseudo-gap au couplage fort, même quand la longueur de corrélation magnétique n'est pas nécessairement très grande. Voilà, donc ça c'est une première question qu'on veut pouvoir poser au modèle de Hubbard. Est-ce que tu as un pseudo-gap, un couplage faible, un couplage fort ? Évidemment, par la même occasion, si oui, quelle est son origine physique ? Alors, les possibilités signalées, explorées, proposées dans la littérature pour l'origine du pseudo-gap se comptent en dizaines. En particulier, une hypothèse très naturel, en fait, c'était de dire que peut-être que le pseudo-gap, c'était un précurseur du gap supraconducteur. Ça signalait un appariement des particules dans l'état normal, avec des paires préformées. Et c'est toujours une opinion qui est partagée par un certain nombre de gens, sans doute de plus en plus faibles, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'évidences pour dire que ce n'est pas le cas, et qu'en fait, ce pseudo-gap est lié aux fluctuations magnétiques. Mais voilà, pour citer un exemple de proposition théorique, il y en a beaucoup d'autres. Alors, vous voyez que vient avec cette question d'autres questions. Ici, si je ne vous ai pas apporté un transparent, j'essaierai de le faire la prochaine fois, mais si je regarde l'intensité du spectre de photoémission sur la surface de Fermi, eh bien, en fait, dans ce régime pseudo-gap, ce qu'on voit, c'est une sorte d'arc de Fermi, comme ça, qui se promène avec des quasi-particules intenses ici et puis plus rien là. Alors, cette question d'arc de Fermi, qui n'est peut-être pas une question extrêmement bien posée, c'est un état de température intermédiaire, disons, pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ces arcs de Fermi, et en particulier, que deviennent-ils à basse température ? Alors, le système répond, je deviens un supraconducteur. Donc là, il n'y a plus du tout d'arc de Fermi, parce qu'il y a un gap, sauf dans la région nodale. Mais on peut se demander, si je tuais la phase supraconductrice avec un fort champ magnétique, par exemple, quel serait l'état normal sous-jacent ? Que deviendrait cet état bizarre avec des arcs de Fermi ? Est-ce que ces arcs se reconstitueraient en poche ? Est-ce qu'il y aurait une reconstitution, une reconstruction de la surface de Fermi ? Si oui, est-ce que c'est dû à l'apparition d'un autre type d'ordre qui brise la symétrie de translation ? Ou bien est-ce qu'en réalité, il y a un état plus exotique où on peut avoir une reconstruction de la surface de Fermi sans brisure de symétrie ? Alors ça, c'est vraiment des questions importantes, théoriques, encore ouvertes. Il y a des réponses expérimentales. On sait que quand on tue la phase supraconductrice, pour un dopage inférieur au dopage critique où le pseudo-gap existe, il y a effectivement une reconstruction de la surface de Fermi. C'est des choses qu'on voit clairement sur les expériences récentes. Voilà. Et puis alors, quand on regarde ce diagramme de phase, et on regarde ce diagramme de phase maintenant à plus basse température, alors là, il apparaît tout un zoo de phases qui peuvent dépendre du matériau, qui peuvent être assez complexes, dans lesquelles le désordre peut avoir aussi une influence. Et en particulier, clairement, c'est assez générique dans les cuprates, à basse température et bas dopage, il y a un régime ici avec des ordres de charge. C'est-à-dire que les trous se mettent à certains endroits et pas à d'autres. Il y a une modulation de la charge, une onde de densité de charge qui se développe dans le système. Et si j'ai le temps, sûrement pas avoir tout à fait le temps aujourd'hui, mais je vais vous montrer comment ce type d'ordre de charge apparaît dans les théories de champ moyen, juste dans le champ moyen statique. Il y a effectivement des phases complexes à basse température, dans l'état fondamental, disons, qui ont des ordres de charge. Ces ordres de charge peuvent... en particulier, se manifester sous la forme de stripes ou de murs de domaine dans lesquels on a des morceaux d'antiferromagnétiques non perturbés et puis des rubans de trous qui séparent ces morceaux d'antiferromagnétiques. J'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de faire vraiment ça aujourd'hui, mais je vous parlerai des stripes en début de cours la fois prochaine. Bon, voilà le type de questions qu'on peut vouloir poser. Alors, où est mon transparent là-dessus ? Voilà, quelle est la nature des phases basse température maintenant, les phases en compétition, onde de densité de spin, briseau de symétrie de translation, onde de densité de charge, etc. Et puis, bien entendu, question majeure, est-ce que le modèle du Hubbard bidimensionnel a une phase supraconductrice ? Et ça, ça pose une des questions délicates parce qu'il s'agit d'évaluer la compétition énergétique entre un état fondamental supraconducteur éventuel, dont on sait qu'il n'est pas très loin en énergie, et puis ces phases avec des ordres de charge. Et en fait, on sait maintenant, je vous en parlerai vers la fin de ce cycle de cours, que cette compétition énergétique est très très délicate. Elle fait intervenir des échelles d'énergie qui sont de l'ordre de l'intégrale de sauté divisée par 100. Donc des toutes petites échelles d'énergie. Donc c'est très délicat du point de vue numérique en particulier. Et ça veut aussi dire que dans les vrais matériaux, en réalité, il y a une grande sensibilité de qui gagne, par exemple, à la présence de désordre ou à la nature spécifique du matériau. Il y a aussi une grande sensibilité aux paramètres. Si vous changez un petit peu le rapport T' sur T en mettant un saut second voisin, vous pouvez certainement favoriser un type d'ordre par rapport à un autre type d'ordre. Donc le message que je voudrais faire un petit peu passer, c'est qu'en fait, la physique de ces systèmes, une bonne manière de la regarder, c'est peut-être de venir plutôt des régions haute température et d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on va vers les basses températures. Et il y a toute une série de méthodes, numériques en particulier, qui font ça bien. Alors, on va en entendre parler aujourd'hui, les méthodes de Monte-Carlo diagrammatique actuellement vivent dans un certain régime de température qui n'est pas encore ce régime de très basse température. Et finalement, la physique dans ce régime de température intermédiaire est relativement plus simple. Et je prétends même que dans ce régime, elle est relativement bien comprise, en fait. À la fois par des méthodes de type extension de DMFT en cluster, donc cluster DMFT, et maintenant aussi par les méthodes de Monte-Carlo diagrammatique et d'autres. Et la physique à basse température est plus complexe et surtout elle fait intervenir beaucoup d'ordres en compétition avec des petites échelles, petites différences, toutes petites différences d'énergie. Bon, alors pour finir un petit peu ce panorama, une des questions importantes c'est aussi. Ah, ça c'était pas prévu au programme. Excusez-moi. Je vous ai parlé des questions physiques. Je voulais un petit peu aussi. Alors, je voulais vous parler un petit peu des observables. Donc, on veut questionner ce modèle sur ces questions physiques, mais comment est-ce qu'on va le regarder ? Quels observables on va calculer ? Alors, de préférence, des observables qui nous permettent de répondre à ces questions, mais aussi des observables qu'on peut corréler directement aux expériences. Alors là, j'en ai fait une petite liste, qui est loin d'être exhaustive, mais juste pour vous donner une idée. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir regarder ? Alors, on peut, par exemple, vouloir regarder les fonctions de réponse du système. En fait, toutes les expériences, c'est des fonctions de réponse. On perturbe le système, on regarde la réponse. Alors, par exemple, si on fait de la diffusion de neutrons ou de la RMN, on va sonder dans différents régimes de Q et d'oméga, donc de l'impulsion et de la fréquence de l'énergie, la fonction de réponse de spin. Donc, on voudrait pouvoir calculer la fonction de réponse de spin, qui est la réponse à un petit champ magnétique qui peut dépendre du site, ça c'est la partie Q, et du temps, ça c'est la partie oméga. On pourrait vouloir aussi regarder la fonction de réponse de charge. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué expérimentalement, en particulier pour la dépendance en Q. Il y a des techniques de diffraction d'électrons qui permettent maintenant de dire des choses sur qui de Q et d'oméga charge, mais c'est un petit peu plus délicat expérimentalement. Du point de vue théorique ou numérique, il n'y a pas une différence fondamentale entre les calculs de ces deux quantités. En général, si on peut faire l'une, on peut aussi faire l'autre. Je pourrais aussi dire comment est-ce qu'on fait ça dans le domaine des atomes froids, dont on a parlé la dernière fois. Alors, on peut regarder les fonctions de réponse dans le domaine des atomes froids en faisant de la spectroscopie de Bragg avec de la lumière polarisée. Alors ça, c'est un point, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais je voudrais quand même dire une chose là-dessus. Quand vous faites de la diffusion de la lumière en physique de la matière condensée, les photons ayant une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande que la maille du réseau, vous êtes toujours dans la limite Q tend vers zéro. Donc, par exemple, si vous faites une mesure d'optique, de conductivité optique, vous regardez Q égale 0. En revanche, dans le domaine des atomes froids, c'est différent. Parce que comme le réseau périodique est lui-même créé avec des lasers, d'accord, une maille du réseau beaucoup plus grande, qui est typiquement micrométrique, et donc la longueur d'onde des photons est comparable, peut être facilement comparable à la maille du réseau. Et donc les méthodes de diffraction de la lumière permettent de sonder qui de Q et d'oméga à moment Q fini, dans le domaine des atomes froids. Très différent de la spectroscopie de photons dans les solides. Bon, voilà. Alors, autre type de fonction de réponse, on peut vouloir regarder la fonction de réponse courant-courant. Donc ça, c'est la spectroscopie optique. Alors, dans le domaine de la matière condensée, typiquement, on regarde ça en faisant la conductivité optique dépendant de la fréquence, c'est-à-dire on envoie un photon sur le système, et comme je le disais, ça mesure ce type de fonction de réponse dans la limite Q tend vers zéro. Dans le cas des atomes froids, on peut mesurer, on commence à pouvoir mesurer ce genre de choses, en particulier pour oméga égale 0, la réponse statique, par des mesures de transport, et j'en ai un petit peu parlé, je crois, la dernière fois, où on peut commencer à faire des mesures de transport dans ces systèmes d'atomes froids. Et puis, il y a maintenant les fonctions de réponse à une particule, donc ça, c'est des fonctions de réponse à deux particules, c'est-à-dire c'est on n'enlève pas de particules au système, on le perturbe et on regarde la réponse. Ici, la fonction de réponse dite à une particule, ça serait une expérience de photoémission, où on enlève une particule au système, et donc ça mesure directement quelque chose qui est lié à la fonction de Green ou à la fonction spectrale à une particule, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans ce spectre de photoémission. Et il y avait une question la dernière fois que vous aviez posée, qui était est-ce qu'on peut faire la même chose dans les atomes froids? Et j'avais expliqué que oui, on peut faire la même chose avec des spectroscopies de type spectroscopie RF ou spectroscopie Raman, où on fait basculer un atome dans un autre état hyper fin et on a accès à la fonction spectrale. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée de quels sont les observables qu'on va vouloir calculer théoriquement, d'une part pour répondre aux questions physiques que j'ai dans certaines mentionnées plus haut, et d'autre part en liaison directe avec des observables expérimentaux. Bien, donc ça achève ce que je pensais faire en une demi-heure et que j'ai fait en 1h10, qui était de vous donner un petit peu un panorama, on ne va pas appeler ça un cours, mais plutôt une espèce de panorama sur les liens entre le modèle de Hubbard et les matériaux électrofortement corrélés, et puis aussi le type de questions physiques qu'on veut poser à travers les différentes observables qu'on peut vouloir calculer. Et je vais maintenant passer à une deuxième partie du cours, qui se continuera manifestement la prochaine fois, où je vais revenir à des choses plus théoriques, mais aussi plus précises, et vous parler un peu de la première chose qu'on peut faire au-delà des électrons libres, c'est-à-dire le champ moyen statique, old school. Voilà. Peut-être si vous avez une ou deux questions, c'est un bon moment de les poser sur cette partie-là avant qu'on attaque le champ moyen. Alors, le champ moyen. Donc, je vais vous montrer un petit menu ici des choses que je voudrais vous raconter. En fait, je voudrais saisir l'occasion de ce cours pour vous donner un petit peu une perspective, peut-être un peu différente de celle que vous voyez dans les livres, un peu originale, sur les théories de champ moyen. Alors, je vais d'abord commencer d'une manière assez classique, en voyant, il y a différentes manières de voir la théorie de champ moyen, et ces manières peuvent être utiles et fructueuses pour inventer des nouvelles méthodes. Alors, il y a d'abord la manière, je dirais, la plus classique, dans laquelle on voit le champ moyen comme une approximation par un Hamiltonien effectif à une particule, donc un Hamiltonien libre, autocohérent, en négligeant les fluctuations. Donc, c'est la première manière dont je vais l'introduire. De manière analogue, on peut dire que la méthode de champ moyen est une méthode variationnelle dans laquelle on choisit une fonction d'onde de l'état fondamental ou une matrice densité, si vous voulez le faire à température finie, qui est une matrice densité ou un état variationnel d'électrons libres, donc un déterminant oscillateur, dont on ajuste les paramètres pour minimiser l'énergie. D'accord ? Donc ça, c'est tout à fait classique de voir le champ moyen de cette manière. Alors, il y a une autre manière de voir la théorie de champ moyen, qui est un petit peu moins souvent expliquée, qui est en fait, on peut voir la théorie de champ moyen comme le premier ordre dans l'interaction d'un développement exact, d'un développement perturbatif exact, qui serait celui d'une fonctionnelle d'énergie libre. Donc en fait, on peut montrer qu'on peut construire, et je ne vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai la prochaine fois, on peut construire une fonctionnelle d'énergie libre qui est une fonctionnelle exacte, en principe, qu'on ne sait pas vraiment construire, de manière tout à fait analogue à la théorie de la fonctionnelle de densité. Et on peut développer cette fonctionnelle exacte en puissance de U, et le premier ordre, c'est la théorie de champ moyen. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Et en dernier lieu, je vais aussi vous montrer, ça c'est bien connu, que les fonctions de réponse associées à l'approximation de champ moyen, c'est ce qu'on appelle l'approximation RPA. Donc à mon avis, il ne devrait pas y avoir de nom différent pour ça, mais enfin pour des raisons historiques, l'approximation RPA s'appelle la Random Phase Approximation. Donc quand on parle des fonctions de réponse, on pourrait aussi bien parler d'approximation de champ moyen pour les fonctions de réponse. Donc voilà un petit peu le menu, et tout ça va se dérouler principalement au tableau. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu de la vision, je dirais, standard de la théorie de champ moyen. Donc, dans le modèle de Hubbard, on a une interaction. Cette interaction fait intervenir U, N up, N down. Et ceux-ci sont des opérateurs, donc on a un terme à deux corps. Et ce qu'on va tout simplement faire, donc c'est la vision la plus pédestre, disons, du champ moyen, c'est de réécrire ce terme sous la forme d'un terme à un corps plus une fluctuation. Alors, ça, c'est pas compliqué. Vous voyez que je peux écrire ce terme, je réécris juste ce terme de la manière suivante. Je vais factoriser, donc je fais ça sur chaque site. Hein. Il y a un indice de site ici, je ne vais pas le mettre à droite parce que ça va être un peu long, mais donc je vais simplement factoriser les valeurs moyennes. Okay. Et puis ici, je vais avoir le terme de fluctuation qui fait intervenir la différence entre les opérateurs et les valeurs moyennes. Et si vous regardez bien les choses, vous voyez qu'ici, il faut rajouter, alors je vais enlever le U parce que ça va me simplifier la vie, il faut rajouter moins N up, N down, le produit des densités. Voilà. Donc là, je n'ai rien écrit, cette identité est exacte. D'accord. Donc maintenant, ceci est une constante dans l'énergie, c'est juste un nombre, d'accord, qu'il ne faut pas oublier pour calculer l'énergie correctement. Ceci est un terme effectif à un corps, et puis ceci est une fluctuation. Et l'approximation de champ moyen, drastique, consiste tout simplement à négliger ces fluctuations. Voilà comment on peut voir les choses. Alors ça nous amène à quoi ? Eh bien, ça nous amène à une théorie autocohérente dans laquelle j'ai remplacé mon système par un hamiltonien effectif à un corps qui va être constitué d'une constante qui est le terme d'énergie ici, moins U somme sur I de Ni up, Ni down. Alors maintenant, attention, pour éviter d'avoir tout le temps à écrire des valeurs moyennes, je vais bien faire attention de distinguer les Ni sigma, qui sont des nombres, qui sont les valeurs moyennes d'opérateurs, et puis les N chapeau I sigma, qui sont les opérateurs. C'est quoi I sigma, c'est I sigma. D'accord ? Sinon, je vais avoir écrit des crochets tout le temps, c'est trop long. Donc, j'ai ce terme qui est une constante, mais qui dépend des densités locales. Hein. Et puis ensuite, j'ai mon terme habituel, mon hamiltonien de Hubbard, somme sur sigma de... Vous pouvez me garder Tij si vous voulez, de C croix I sigma, Cj sigma Ij. Et puis j'ai un terme ici qui va être plus U, somme sur I, de Ni up opérateur fois Ni down densité, d'accord ? Plus U, somme sur I, de Ni up densité, Ni down opérateur. Et puis éventuellement le potentiel chimique. Moins mu, somme sur i, sigma, de c croix i sigma, si vous voulez, de n i sigma. Voilà. D'accord ? Alors vous voyez que ça, c'est la somme de deux hamiltoniens à un corps sans un quadratique séparé pour les spin-up et les spin-down. Ça, c'est tout ça, c'est donc ce terme constant plus un Hamiltonien effectif pour les spin-up plus un Hamiltonien effectif pour les spin-down. Chacun de ces Hamiltoniens effectifs est caractérisé par une énergie de site, on pourrait réécrire ça somme sur I sigma de epsilon I sigma N I sigma. D'accord ? Et vous voyez que ces énergies de site, epsilon I sigma, eh bien c'est moins mu, disons, plus U N I moins sigma. Alors là, je n'ai fait aucune hypothèse sur l'invariance par translation. J'ai laissé chaque site faire ce qu'il voulait. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, le unrestricted mean field, le champ moyen sans restriction, sans imposer de translation, d'invariance par translation particulière. Donc ça s'inscrit, si vous voulez, dans la lignée générale des méthodes unrestricted Hartree-Fock. Une classe de méthodes très générale pour les problèmes à n corps, dans lesquels on laisse chaque site ou chaque orbital, etc., faire ce qu'elle veut. Et on a un vaste determinance letter qui est une fonction variationnelle pour l'ensemble du système, sous l'approximation que c'est un determinance letter de particules indépendantes. Alors là, le mot Hartree-Fock est un petit peu un abus de langage, parce que dans le modèle de Hubbard, parce que l'interaction est entre spin-up et spin-down, il n'y a pas de terme de Fock. Vous voyez que ce terme est un terme densité-densité. Le terme de Fock, c'est un terme qui fait intervenir la matrice densité, C croix I, C J. Il n'y a pas un terme comme ça dans le modèle de Hubbard, donc en fait, c'est pour le modèle de Hubbard, c'est unrestricted Hartree, ou unrestricted mean field. Donc, si on veut résoudre ces équations, c'est en principe très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se donne, donc c'est forcément une procédure itérative, parce que vous voyez que ça, c'est une relation d'autocohérence, hein, puisque les ni sigma doivent être bien sûr calculés comme la valeur moyenne des opérateurs dans l'Hamiltonien effectif qui est écrit ici, qui dépend lui-même des epsilon ni sigma. Donc, comme toujours dans les théories de champ moyen, on a une procédure itérative autocohérente pour converger vers la solution, soit de manière itérative, soit en minimisant une fonctionnelle d'énergie par la méthode que vous voulez. Je dois aussi préciser que le champ moyen que j'ai écrit ici, il y a quand même une petite hypothèse, c'est que j'ai choisi un axe de quantification pour les spins, qui est Z. Vous voyez, j'ai découplé par rapport aux densités, essentiellement SZ et la densité totale sur le site. Et donc, si j'avais des ordres ou qui soit non coplanaire, hein, par exemple une onde de densité de spin qui ne serait pas polarisée selon Z, je ne l'ai pas inclus comme possibilité ici. D'accord. Donc j'ai quand même restreint un petit peu la recherche, et pas entièrement unrestricted. Pour le faire de manière complètement non biaisée, il faudrait admettre un référentiel qui change aussi avec le site. On peut faire ça, mais par simplicité, je ne l'ai pas fait au tableau. Bon, alors, quelle est la procédure? Donc, la procédure, elle est très simple dans son principe. Vous prenez un ensemble d'énergie de site initiale, vous diagonalisez la matrice moins Tij sur le réseau, hein, plus epsilon I sigma moins mu delta Ij. Donc, il y en a une pour les spin-up et une pour les spin-down. Ça, ce sont donc des matrices M, I, J, sigma, il y en a deux pour les spin-up et les spin-down qui ont chacune une dimension n sites par n sites. Si vous êtes sur un réseau de n sites, d'accord, vous diagonalisez ces matrices. Ces matrices vont vous donner un ensemble de valeurs propres qui vont avoir, disons, donc je vais appeler les états propres alpha, sigma, qui vont avoir des énergies E alpha, sigma. Et puis, à partir de ces états propres, vous pouvez calculer ni sigma Donc je vais l'écrire même à température finie. Qu'est-ce que ça va être Ni sigma? Ça va être la somme sur tous les alphas de... alors c'est facile de voir que c'est I alpha sigma module carré fois la fonction de Fermi de E alpha sigma moins mu. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous remplissez toutes les orbitales alpha jusqu'à ce que vous ayez... Et puis si vous étiez à température nulle, jusqu'à ce que vous ayez épuisé vos électrons, ou bien si vous êtes à température finie, vous peuplez ces orbitales à alpha avec le facteur de Fermi, d'accord, comme pour n'importe quel système d'électrons libres. Et j'ai juste utilisé le fait que dans la base des états propres, la matrice densité C croix alpha C bêta, qui est maintenant exprimée dans la base des états propres, est diagonale. D'accord. Et j'ai juste réexprimé la matrice densité C croix ICJ dans la base des états propres, et quand vous faites ça, vous trouvez facilement cette relation que C croix I, CI, c'est la somme sur I alpha de I alpha sigma carré fois l'occupation de l'état alpha. Ça, c'est très concrètement, c'est quoi? C'est la fonction d'onde phi alpha au site I module carré, phi alpha sigma. Bon, alors vous calculez ces Ni sigma. Et maintenant, vous pouvez donc calculer les epsilon i sigma selon la formule qui est là, epsilon i sigma. Alors, je me suis un peu mélangé les pieds avec mu. Si je mets mu ici explicitement, les epsilon i sigma, ça devient juste u n i moins sigma. Et puis, ça me donne un nouvel ensemble d'énergie de site, et j'itère ce processus. Donc ça, c'est, disons, le champ moyen unrestricted. Et la question, c'est de savoir vers quoi cette procédure itérative converge. Et d'abord, converge-t-elle? Et est-ce que ça dépend de la condition initiale, etc., etc. Bon. Alors, je vais peut-être vous montrer quelques exemples. Ce n'était pas l'ordre dans lequel j'avais pensé procéder au départ, mais puisqu'on est un peu pris par le temps, je ne voudrais pas vous laisser sans résultat du tout. Donc, je vais vous montrer quelques exemples dans lesquels cette procédure est mise en œuvre numériquement sur des systèmes. Alors, il faut le faire sur des systèmes de taille finie, mais comme on a diagonalisé juste une matrice, ce n'est pas un problème à n corps, c'est juste une matrice sur le réseau, on peut quand même faire des grands systèmes. Voilà, je vais vous montrer quelques résultats numériques de cette procédure. Donc, voilà un article relativement récent, et plus récent, en fait, que j'ai trouvé de mon collègue Shiwei Zhang et collaborateur, qui résolvent les équations artifoques ou champs moyens autocohérentes pour différents régimes de U et de dopage dans le modèle de Hubbard à une bande. Et voilà le type de... Alors, je vais peut-être commencer par ça. Voilà le type de résultat numérique qu'on peut obtenir. Alors, le premier graphe qui est là, il vous montre qu'il y a en fait une assez grande sensibilité des résultats numériques à la taille du système et également au nombre de trous que vous avez mis dans le système. Alors, on part d'un système où il y a une particule par site, donc on part de l'état demi-rempli. Là, je ne vous le montre pas, mais si vous convergez ces équations dans l'état demi-rempli, je vais vous le faire analytiquement tout à l'heure, ou la prochaine fois, vous trouvez une onde de densité de spin antiferromagnétique, vous trouvez un antiferromagnétique commensurable avec un vecteur d'onde pipi. Donc, vous trouvez un état de Néel, up-down, ça marche très bien. Et maintenant, vous introduisez des trous dans le système. Alors ici, c'est un cas où on a un relativement petit réseau et on met 4 trous dans le système. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à former, à localiser ces trous. Alors, on retrouve cette notion que les trous émettent ensemble. Vous vous souvenez de la diagonalisation de la plaquette? Donc on trouve cette notion que les trous aiment bien être ensemble. Donc ici, on trouve une sorte de polaron, si vous voulez, dans lequel les trous sont ensemble, et puis tout ce qui est noir autour correspond à de l'antiferromagnétique non perturbé. Voilà, en fait, ça, c'est la densité de charge, je vous montre ici, hein. Ce n'est pas le pattern de spin. Et puis, quand on augmente le nombre de trous, vous voyez qu'on trouve différents types de motifs dans lesquels ce polaron croît, forme une espèce de carré dans lequel les trous sont localisés, et puis le reste en fait correspond à de l'antiferromagnétique non perturbé avec une densité uniforme égale à 1. Et puis, quand on a en fait un bon accord entre le nombre de trous et la taille du système, on commence à former des sortes de canaux comme ça, qui sont les murs de domaine ou les stripes auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et ce qu'on trouve dépend pas mal du lien qui existe entre le nombre de trous qu'on a mis et la commensurabilité de cette distance qui sépare les deux stripes avec la taille du système. Alors voilà des systèmes plus grands, vous voyez ici 32 par 32, dans lesquels effectivement on voit se former ces stripes. Donc ici c'est l'onde de densité de spin qui est dessinée ici. Donc vous voyez que les parties en damier noir et blanc c'est de l'antiferromagnétique non perturbé. Et puis ici c'est des régions où l'alimentation locale tombe à zéro. Donc on a une modulation de l'antiferromagnétique avec une concentration des trous sur ces formes en ruban, mais là aussi il y a un effet de frustration. La séparation entre ces deux rubans, c'est une longueur d'onde bien déterminée qui est déterminée par le nombre de trous, et selon que cette séparation est commensurable ou non avec la taille du système, on a soit une situation sans frustration où les stripes sont bien contents, comme celle-ci ou celle-ci, ou une situation où les stripes sont un peu frustrés et donc doivent suivre un motif un peu compliqué pour s'adapter à la taille du réseau, comme ça. Mais vous voyez que sur des grands systèmes, on a clairement ce type de structure en ruban qui apparaissent, et c'est ça que Unrestricted Hartree-Fock fait, au moins dans un certain régime de U et de densité de trous. Alors pour préciser ça un tout petit peu plus, je vais vous montrer ici, toujours dans cet article, l'évolution de l'état fondamental unrestricted mean field en fonction de U. Et ce que vous voyez ici, c'est le maximum et le minimum de la densité. Donc peut-être faut commencer ici. Voilà ce qu'on trouve pour le pattern, pour le profil de densité de charge et de densité de spin. Alors vous voyez qu'à U petit, comme ici U égale 1, ce qui se passe, c'est qu'on a, on n'a rien, on n'a pas d'onde de densité de spin, et on a un profil de charge uniforme. Quand on augmente U, tout à coup, il apparaît une onde de densité de spin, qui est ceci, d'accord, et puis une légère modulation du profil de densité. Et quand on augmente U encore plus, par exemple ici U égale 4, on n'a plus une onde de densité de spin comme ça, mais on a une région d'antiferromagnétique non perturbée, avec un état néel up-down, up-down, qui est séparé par une région où l'aimantation tombe à zéro et où la densité de trous est très grande. Donc la densité d'électrons chute. Donc en fait, à U plus grand, ce qui se passe, c'est qu'on a des régions d'antiferromagnétique non perturbées séparées par des rubans où les trous se concentrent. Donc si vous voulez la caricature de cet état, c'est quelque chose comme ça, où vous avez une modulation du spin, et puis une modulation de la charge avec essentiellement les trous complètement localisés entre deux régions d'antiferromagnétique qui vont donc être décalées d'une cellule unité. C'est-à-dire que vous coupez pas juste l'antiferromagnétique par une ligne de trous, mais si vous regardez deux sites voisins, il va y avoir un mur de domaine où les deux spins seraient parallèles de part et d'autre de la ligne de trous. L'antiferromagnétique est shifté d'une cellule, d'une maille de réseau quand on traverse la ligne de trous. Donc voilà ce qu'on appelle ces stripes. Et vous voyez qu'ici, il y a une évolution. Donc on est en particulier un système où la longueur d'onde du pattern du motif de charge est la moitié de la longueur d'onde du motif de spin. Alors vous voyez que quand on augmente U, on a un régime, donc d'abord à petit u, il n'y a rien, il faut un u critique pour former l'onde de densité de spin. Il y a un u critique où l'onde de densité de spin apparaît dans le système dopé. Et puis, on commence à avoir un système dans lequel il y a une modulation modérée de la charge, et puis après, un système où, entre les murs de domaine, on a vraiment une charge qui est séparée à 1 et où on a vraiment cette image d'un antiferromagnétique non perturbé et de trous localisés entre ces deux régions d'antiferromagnétique non perturbé. Donc ça, ça vous montre un petit peu le résultat des calculs Hartree-Fock non contraints avec l'apparition de ces stripes ou de ces murs de domaine. Et ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais revenir au cas où on suppose une invariance par translation. Je vais résoudre ces équations analytiquement, donc ça c'est un exercice classique d'introduction au problème à n corps. On va trouver l'état de Néel antiferromagnétique. Et je vais aussi vous donner un très joli argument, qui est en particulier qu'on trouve dans un bel article de Heinz Schulz, pour lequel cette onde de densité de spin incommensurable qu'on trouve quand on dope est instable vers la formation de murs de domaine, en fait. Voilà, alors pour juste conclure, avec pas mal de minutes de retard, je voudrais quand même vous faire sentir qu'on commence à avoir un petit peu différents éléments qui nous permettent de commencer à deviner un petit peu le diagramme de phase de ce modèle, au moins dans le cas de mi-rempli. Si vous mettez ensemble ce qu'on a fait la dernière fois, qui est l'étude du modèle en couplage fort, en regardant juste deux sites, puis une plaquette, et en montrant que tout ça devient une sorte de modèle de Heisenberg, à grand U. Et ce qui ressort de cette théorie de champ moyen à petit U, qui est qu'on a une onde de densité de spin antiferromagnétique, eh bien, vous pouvez commencer à deviner un petit peu comment les choses se passent. Et j'espère que ça deviendra plus clair à la fin de la première moitié du cours de la fois prochaine. Donc, à U grand, on va avoir un état antiferromagnétique, qui est une conséquence directe du modèle de Heisenberg, mais un gap de charge qui va être d'ordre U. Et par contre, à U petit, cette théorie de champ moyen vous montre qu'il existe, au demi-remplissage, une phase antiferromagnétique qui est, dans le cas d'un réseau avec un saut plus proche voisin seulement, avec emboîtement parfait de la surface de Fermi, apparaît dès U égale 0. Entre les deux, il doit exister, par exemple, à trois dimensions, une température de Néel qui va croître comme ça et puis redescendre après, puisque le couplage de Heisenberg est d'ordre 1 sur U. Donc on peut tout de suite deviner qu'il y a ici une phase antiferromagnétique, ici une phase avec un gap de charge très grand, mais pas d'ordre magnétique, donc une phase qui va être essentiellement un isolant de mode paramagnétique avec des spins qui fluctuent, et puis ici un régime métallique. Ça prépare un petit peu aussi le séminaire de Fedor et ce qu'on dira la fois prochaine.